Bienvenue à cette deuxième partie du discours. On va continuer à explorer la relation désir. Et peut-être on va se concentrer pour le moment sur l'aspect un peu l'approche dans le bouddhisme du désir comme du désir problématique. Et spécialement sur l'idée de lâcher prise, en fait, de comment lâcher prise sur un désir qui crée de la souffrance. Parce que ça sera toute là dans l'évolution de ce qu'on va voir, c'est une recherche, un apprentissage à distinguer, en fait, maintenant qu'on comprend que tous les désirs ne sont pas problématiques. Et qu'il faut pas laisser cette compréhension-là s'insinuer d'une manière ou d'une autre, on y reviendra. Il va nous falloir distinguer quel désir il faut nourrir et quel désir il ne faut pas nourrir, en fait. Et ça pourrait être une définition de la sagesse. Et c'est ça qu'on va explorer dans les retraites, dans ce cycle. C'est notamment ça qu'on va explorer. Mais il est très clairement des désirs sur lesquels il faut lâcher. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et on est tous dans le bain avec ça. Hein, on a tous des endroits où on sait que on se fait attraper à des par voilà par des choses qui nous font pas du bien ou qui éventuellement même nous amènent à causer du tort autour de nous. Et là, on aimerait dans l'idéal pouvoir ne pas se faire attraper, lâcher prise. Et ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine du plaisir des sens, dans le domaine de l'identité, dans le domaine de vouloir l'attachement aux opinions, ou parfois on peut être tendu dans une discussion parce qu'on est attaché à nos opinions, on voudrait pouvoir lâcher, mais on n'y arrive pas. Ça peut être absolument dans tous les domaines, dans les domaines de la consommation, domaine de la santé. Donc prenons par exemple, prendre un exemple, mais ça fonctionne avec tous les exemples, hein. Mais c'est un exemple qui est très très connu et du coup qui parle souvent de la cigarette, par exemple, hein. Et beaucoup beaucoup d'entre nous ont un moment ou un autre été confrontés à ça ou sont toujours confrontés à ça. Et vous pouvez sinon transposer au chocolat, à manger trop, à tout ce que vous voulez en fait. Mais imaginons par exemple donc quelqu'un se promène dans la rue et puis voit quelqu'un d'autre qui fume. Et à ce moment-là, l'envie d'une cigarette va. La première chose, ça va être ce contact. Alors, l'envie, elle peut venir d'elle-même, mais elle peut être suggérée, hein, par le contexte. Hop, directement, il va y avoir l'envie qui va émerger. Déjà là, en général, ce qui se passe dans l'esprit d'un fumeur qui a déjà eu ses combats, j'arrête pas, j'y arrive pas et tout ça, il va y avoir ça va ramener tout un passé, toute une histoire. Et là, il y a quelque chose qui va se tendre. Il va y avoir une tension qui va s'installer. Il va y avoir un désir qui va monter. Et en fait, notre attention qui était assez ouverte à ce moment-là se contracte. Et ce désir qui aurait pu être, s'il n'avait pas été, on dit qu'il est saisi. Qui n'avait pas été saisi, imaginez, vous êtes en méditation, tout se passe bien, et puis là, l'idée d'une cigarette passe, et puis elle s'en va. Elle n'a pas été saisie. Et ça, c'est quand on est en méditation, et qu'on se sent suffisamment spacieux, qu'on est nourri par cet espace, et que rien ne pourrait nous sortir de cet espace, parce que rien n'est vraiment attractif. Mais en général, c'est pas ça dans notre quotidien. En général, on est un petit peu distrait, notre attention est un peu partout. Hop, elle va se poser sur une cigarette si on est fumeur, et hop, l'envie va émerger. À ce moment-là, il n'y a pas cet espace, et le désir nous prend. Et il devient très vite un peu obsessif. Il devient très vite, il prend tout l'espace. Donc il va y avoir une sensation de contraction. Notre attention ne peut plus aller ailleurs. Elle est rappelée à ça, rappelée à ça, rappelée à ça. Tant qu'on ne va pas céder au désir, il va y avoir cette notion de contraction, de tension, tension qu'on peut sentir dans le corps. Hein, tout si on est attentif, en fait, tout désir, et ça c'est quelque chose qu'on peut explorer aussi en méditation, c'est que quand il y a un moment où on est pris par un désir dans l'esprit, il y a la trace dans le corps, il y a une tension, en fait. Et on peut aussi faire l'expérience de cette attention qui se contracte. Le flot des pensées, par exemple, ne peut plus, et des pensées, et des événements, et des perceptions, ne peut plus suivre son cours parce que quelque chose a été saisi. À moi, cette notion de saisir. L'idée d'une cigarette va venir dans la méditation, ça sera pareil. Et là, c'est, ah non, non, pas une cigarette, ah non, je veux pas fumer. Hop, cet événement-là s'arrête. Il ne peut pas passer parce qu'il a été saisi, il a été figé par le refus dans ce cas-ci, qui, on l'a vu, est aussi une forme de désir. Le désir de ne pas fumer, en fait. Donc, il y a cette focalisation, tension, une notion de combat. Et puis, peut-être qu'il va y avoir, ça dépend où on en est avec, avec la cigarette, mais il va y avoir peut-être un combat ou pas du tout. Faire, ah ouais, bah tiens, voilà, y a ce désir qui monte, et cette tension un petit peu, et puis hop, on va être assez relax avec nous-mêmes, on va faire, ok, je prends une cigarette. Et là, le fait de prendre une cigarette va faire baisser cette tension. Je me suis souvent demandé, et ça aussi c'est à observer, dans le plaisir qu'il y a de la cigarette, quel est le plaisir dû vraiment à la satisfaction du désir? Et quel est le plaisir qui est dû à la cessation de la tension? Parce qu'il y avait une tension qui s'est construite. Imaginez vraiment que vous voulez arrêter de fumer, et puis là, l'envie est trop forte. La tension, elle est énorme. C'est hyper déplaisant. Et là, quand on se lâche et qu'on prend la cigarette, le premier, ah, ben, c'est pas que dû à l'entrée de la fumée dans la bouche, c'est aussi tout l'histoire de cette tension qui s'arrête. Il y a une détente là en fait. Et souvent en fait la satisfaction d'un désir, je pense, c'est le plaisir qu'on y prend, c'est la cessation de la tension que le désir avait créée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment observer. Parce que si c'est vraiment ça, c'est un peu con quand même. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hein? Donc en tout cas, c'est vraiment à regarder et à voir. Mais derrière va venir une sensation d'échec. Encore une fois, il va y avoir une sensation d'échec. Donc là, quelque part, la tension, la solidité de la tension du moment s'évanouit, mais en profondeur, il y a quand même une sensation d'échec. Et cette sensation d'échec vient refaçonner cette image de nous-mêmes qui se façonne constamment, en fait, en fonction des événements. De peut-être quelqu'un qui n'a pas de discipline, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de caractère, qui n'y arrive jamais, qui n'y arrivera jamais. Il y a quelque chose qui nous abîme un peu dans notre image et notre relation à nous-mêmes. Il va y avoir aussi des projections sur le futur. Ben, si tu continues comme ça, peut-être au niveau de la santé, au niveau de comment on s'imagine, quand je serai vieux, ceci, cela, ma respiration, ma santé. Donc en fait, il y a toute une histoire qui se construit, qui est l'histoire qui s'était déjà construite avant et qui se perpétue, mais elle se renforce au fur et à mesure. Elle devient de plus en plus une grosse histoire. Et en fait, ce qui se renforce, c'est notre identité. On est en train de construire en soi, on est en train de construire une identité. Dans ce mouvement-là, un soi, un self, on n'a pas vraiment le mot en français qui va bien, hein, un self est né, un soi est né à chaque fois. Je suis le fumeur, la personne qui n'arrive pas à maîtriser, qui n'a pas la, je suis la personne qui n'arrive pas à avoir la discipline. Hein, on se construit, il y a une construction d'une identité là quelque part. Cette identité qu'après on promène un peu partout et que parfois on ressent et que parfois elle est comme absente, mais en sous-jacent elle est toujours un peu là quand même. Dans tout ce mouvement-là, bien sûr, on est loin du moment présent. On est loin du contact direct avec les choses telles qu'elles sont. On est loin de la satisfaction avec ce qui est. On est loin de ressentir notre nature profonde et du contact, d'un contact authentique avec nous-mêmes. Tout ce désir et cet attachement au résultat du désir, parce que c'est ça, on vient de le dire, le désir, il aurait pu passer, mais c'est la saisie et l'attachement, nous a éloignés de ce contact avec nous-mêmes, de quelque chose d'authentique, de quelque chose de simple, de quelque chose de constructif, de non destructeur. Pas pour rien que dans les enseignements, par exemple dans le bouddhisme, il y a une telle emphase sur la nécessité de dominer le désir, de ne pas se laisser emporter par l'avidité. Et ce mouvement est basé sur une illusion. Le disait la seconde des nobles vérités, basé sur une illusion que la satisfaction de ce désir va me rendre heureux. Ça, c'est absolument incroyable dans le cas de la cigarette, parce que quelque part, c'est écrit sur tous les paquets de cigarettes, parce qu'on le sait, et pourtant, quelque part, il reste la sensation que si je m'octroie cette cigarette, je serai heureux dans le moment, il va y avoir la satisfaction, il va y avoir... Il y a une confusion sur qu'est-ce que c'est être heureux? Quelles sont les manières d'arriver au bonheur? C'est pas clair. C'est pas suffisamment clair. Et du coup, on fait des mouvements et on répète des mouvements toujours dans tout un tas de directions. En cherchant la reconnaissance, en cherchant à être quelqu'un, en cherchant à être riche, en cherchant à posséder des choses, en cherchant l'admiration d'un tel ou d'un tel, en cherchant le plaisir des sens. Donc, on fait, même en mangeant, en surmangeant, dans tous les domaines, on va aller chercher d'une manière erroné un bonheur. Et dans le mur, et dans le mur, et dans le mur, et dans le mur. Ça me fait penser, parfois j'ai cette image, elle est un peu pathétique, hein. Excusez-moi. Cette image des insectes qui sont prisonniers dans un piège à insectes, ils sont rentrés par le bas, et en haut il y a la lumière, et ils butent dans le piège en plastique, ils butent contre le plafond. Parce qu'ils pensent que c'est par là la sortie, alors qu'il suffirait qu'ils se lâchent, boum, ils tomberaient dans le trou, ils seraient dehors. Mais continue à y aller, et à y aller, et à y aller. C'est vrai, c'est comme ça que je vais être heureux, c'est comme ça que je vais être heureux, c'est comme ça que je vais être heureux. Et là, tout, dans la vision bouddhiste, tout est dû à une illusion, tout est dû à une ignorance. En fait, l'ignorance crée l'illusion. C'est l'ignorance qui crée l'illusion. C'est comme le disait Nisargadatta Maharaj, l'ignorance de notre nature profonde crée la sensation de manque, d'où naît le désir. Dans le bouddhisme, l'ignorance de notre nature profonde crée, en fait, même j'entendais, je sais pas si vous connaissez le neuroscientifique Albert Mukhyber, qui parlait en psychologie cognitive de comment j'ai plusieurs choses qui me viennent de ce qu'il disait, il dit beaucoup de choses très intéressantes. Mais comment, moins on sait moins on connaît un sujet, plus on remplit les trous et on imagine quelque chose. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est bien ça notre histoire. Puisque celui qui a déjà un petit peu cheminé et qui s'est un peu posé des questions sait qu'il ne sait pas qui il est. Ça, c'est une évidence pour qui a cheminé un petit peu dans, quand on dit je sais qui je suis, ça veut dire qu'on a accepté des vérités superficielles. Mais en profondeur, on n'a pas de notion vraiment de ce que c'est l'histoire de la vie, qui on est, est-ce que la totalité de ce qu'on est dépend de ce corps, est-ce que la conscience est un produit de l'esprit, est-ce que la totalité de nous-mêmes existe dans le temps, ou est-ce que quelque chose de nous-mêmes existe en dehors du temps, ou est-ce que le temps existe en nous? Tout ça, c'est des questions qui sont aussi bien spirituelles que scientifiques, qui sont explorées pour tout qui se pose des questions. On vient buter là-dedans, on vient buter là-dedans. Mais, donc, on est quand même grave dans le flou à propos de l'identité, et pourtant, on a la sensation de connaître. Ça, c'est l'ignorance. L'ignorance va créer une illusion. L'illusion, c'est cette sensation de connaître. On a la sensation de... on remplit les trous. Il y a énormément d'inconnus dans notre réalité, dans notre identité, dans ce qu'est le monde, dans ce qu'est toute cette histoire. Énormément d'inconnus. Il y a très très peu de connus, en fait. On sait tellement peu de choses. On capte tellement peu de la réalité. Avec cet outil extraordinaire, pourtant aussi extraordinaire que soit le cerveau, on capte très très peu de ce qui se passe. Énormément nous échappe, tout est interprété, une image nous est représentée à la conscience, et ça devient notre réalité. Et on crée une histoire, on fabrique une histoire. C'est comme ça que actuellement les neurosciences expliquent l'identité, une fabrication. Explique la perception, une fabrication. Et donc, on fabrique une histoire. Si l'histoire est bien fabriquée, ça fonctionne plutôt pas trop mal, on s'en sort bien. Si l'histoire est problématique, ben, ça crée tout un tas de souffrances. Mais quoi qu'il en soit, il y a fondamentalement une ignorance. Et l'ignorance fait que on ne peut pas vivre, c'est difficile de vivre avec l'ignorance. Comme disait justement Albert Mockemer, ce serait difficile de s'éveiller tous les matins en sachant, en disant je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que c'est cette histoire. Donc on se réveille avec notre histoire construite comme si elle était la totalité de la réalité, alors qu'elle n'est qu'une partie et en plus cette partie-là est une interprétation. Et de cette histoire, du coup, on croit que cette histoire est la totalité. Et ça, c'est l'illusion. L'ignorance crée l'illusion de connaissance. Et donc, on va avoir ce mouvement, cette illusion de connaissance, que telle action, telle chose va me rendre heureux, telle personne, telle situation, telle réussite, tel succès, ou bien la résolution de tel conflit, ou l'absence de telle douleur, ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est ça qui va me rendre heureux, c'est ça qui va me rendre heureux. De là naît le désir. Alors quand on a un désir problématique, toxique, malsain, qui mène en fait vers la souffrance plus que vers le bonheur, qui émerge, parce que quand même, il y a des choses qu'on discerne, où on discerne que tel désir, en fait, ça, ok, je vais peut-être céder, mais je sais que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour telle situation ou autre. Il y a différentes possibilités qui sont proposées dans la pratique de la méditation, dans le bouddhisme. Une des premières pratiques, enfin, c'est pas la première, c'est juste, moi je les ai mises dans un ordre, mais une possibilité, en fait, quand un désir émerge, par exemple, prenons le désir de cigarette. Le désir de cigarette émerge. Vous êtes chez vous, vous avez envie d'une cigarette, et en fait, vous avez envie d'arrêter de fumer aussi. Deux envies différentes. Il y en a une qui est pas au même niveau que l'autre. Une possibilité serait, et je ne dis certainement pas que c'est simple, mais par contre, c'est faisable. Une possibilité, c'est de détourner notre attention du désir de cigarette. C'est-à-dire que le désir grandit parce qu'il a notre attention. Il est là, il arrive, il allait passer, on a sauté dessus. On a sauté dessus souvent parce qu'on le refuse, hein, voyez bien le truc. Ah non, pas encore une cigarette, pas encore le désir de cigarette. Ah non, c'est hors de question, je ne veux pas, je ne fumerai pas, et allez. Il s'agit plus que de cigarette, en fait. On l'a pas laissé passer à cause de notre manque d'acceptation. Hein? Donc, on l'a saisi. C'est ça, désir positif, négatif, vous voyez, on l'a saisi. Le refus est une saisie. Du coup, c'est figé, c'est là, il n'y a plus que ça. Notre attention est complètement concentrée là-dessus, le reste n'existe plus, il n'y a que nous et le combat avec la cigarette et tout ça. Remettre de l'espace, détourner notre attention ailleurs. Essayer de se dire, ok, je vais prendre quelques minutes, par exemple. Bon, ok, on verra bien si je vais fumer cette cigarette ou pas, mais je vais prendre quelques minutes. Et en attendant, je vais poser mon attention ailleurs. Hein? Donc faire autre chose, éventuellement, je sais pas, faire quelque chose qui nous intéresse, idéalement. Et très probablement, on pourra constater que déjà le désir en lui-même, il a une durée de vie, parce que tout va, tout passe, parce qu'il a une durée de vie, et que si on ne l'entretient pas avec notre attention, en fait, il diminue, comme toute chose. Dans notre expérience, ne vit que ce qui reçoit notre attention. Puisque notre attention, si elle va ailleurs, la chose n'est plus perçue, elle ne fait plus partie de notre expérience. Donc, on peut tenter de détourner notre attention de manière à ne plus, nourrir, en fait, ce désir. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Et au début, c'est super dur, mais quand on voit que ça marche, en fait, on prend confiance. Ça, c'est typiquement une pratique de méditation. C'est tout le temps ce qu'on fait en méditation. Là, notre attention est captée par une pensée qui est souvent en lien avec un désir. Et dès qu'on le remarque, on détourne notre attention et on la ramène à la respiration. Quand on fait ça, on peut remarquer que l'histoire ne peut pas continuer parce qu'elle ne reçoit plus notre attention. Donc on fait la même chose avec un désir. On peut aussi, autre approche, on peut aussi utiliser une manière de voir. Des manières de voir, il y en a pas mal. On peut utiliser une manière de voir comme l'impermanence, qui est la plus accessible, on va dire. De savoir, un, que ce désir, si on y résiste un petit peu, il va passer. Ramener cette conscience. Je sais que si je ne fume pas cette cigarette tout de suite, l'envie va passer après un moment. C'est de nouveau remettre de l'espace à travers une compréhension. Je sais que l'envie va passer un moment si je ne saute pas maintenant. Et je sais aussi, en permanence, que ce désir ne va pas m'amener une satisfaction durable. C'est-à-dire qu'au moment où je vais prendre ma cigarette, peut-être je vais avoir une satisfaction sur le moment, mais ça ne va pas durer. Donc c'est deux approches de la permanence. On peut ramener la compréhension, on peut voir cette situation à travers notre compréhension de la permanence. Rien ne dure. Ce désir-là ne durera pas non plus. Et ramener ce savoir quand on vit ce moment, ça peut permettre de lâcher. On peut aussi observer cette pression. En fait, on peut se dire que là, c'est presque c'est pas la cigarette qu'il faut lâcher, c'est cette relation au désir. Le désir émerge en nous, que ce soit pour la cigarette ou pour autre chose, c'est toujours lui. Et le voir pour ce qu'il est. Ah, désir. Hein, désir. Attention. Hein, focalisation, concentration. Combat. Hein, tout ça, c'est désir. Ah, est-ce que je peux lâcher? C'est plus vraiment la cigarette qu'on lâche là, c'est le désir, c'est le mouvement du désir. C'est la croyance que ce désir va m'amener une satisfaction durable. Un texte attribué à Sen-tsun, qui était un patriarche du bouddhisme Chan, en Chine. Texte sur le... Il parle du Tao, qu'il appelle la grande voie. C'est un long texte qui est très très beau. Souvent je me dis que je consacrerais bien une retraite à en faire l'étude, en fait. Mais ça, c'est le début. La grande voie n'est pas difficile pour ceux qui n'ont pas de préférence. On pourrait s'arrêter là. C'est énorme. La grande voie n'est pas difficile pour ceux qui n'ont pas de préférence. Ok. Lorsque l'amour et la haine sont tous deux absents, tout devient clair et sort déguisement. Mais si on fait la moindre distinction, le ciel et la terre se séparent à l'infini. Si vous voulez voir la vérité, n'ayez aucune opinion pour ou contre quoi que ce soit. Opposer ce que l'on aime à ce que l'on n'aime pas est une maladie de l'esprit. Lorsque le sens profond des choses n'est pas compris, la paix essentielle de l'esprit est perturbée en vain. Donc la grande voie n'est pas difficile pour ceux qui n'ont pas de préférence. C'est une bonne nouvelle. Il faut se rappeler qu'on parle de nouveau de quelque chose de très très différent de cette alexithymie dont je parlais. Là, c'est ça, c'est l'alexithymie. C'est cette maladie de l'esprit de ne pas avoir d'émotion. Et c'est quelque chose... Donc ici, c'est pas de préférence, mais rappelez-vous, mon ami Paul non plus, il n'avait pas de préférence. Mais ça se passe dans un contexte et un cadre très très différent. J'essaie de l'expliciter. Sen-tsun, ce qu'il nous dit en fait, c'est... Si on le prend en méditation, pour moi, c'est plus facile à comprendre. On est installé en méditation. Notre intention est la paix de l'esprit. Dès qu'il se produit quelque chose, en fait, dès qu'il va y avoir quelque chose qu'on aime, une pensée, une sensation, une perception, un oiseau qui chante, on va en vouloir plus. Ça, c'est une préférence. Ah, on en veut plus. Dès qu'il va se produire quelque chose qu'on aime moins, on va vouloir que ça s'arrête. Peut-être un bruit, peut-être une douleur, peut-être un train d'idées qui nous déplaise. On va vouloir que ça s'arrête. Ces deux mouvements, on l'a vu, sont le même. Ça fige quelque chose qui allait passer. Ça fige en nous, ça crée une tension, et ça met en mouvement le désir. Hein? Ça met en mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, notre méditation ne se pose pas vraiment, ne peut pas vraiment aller en profondeur, parce que l'esprit est tout le temps en train de dire un peu plus de ça, un peu moins de ça. J'aimerais bien que ça dure, j'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien que ça dure. Parfois, d'une façon très très grossière, où on sent vraiment, ah ouais, mais non, mais là, si ça continue comme ça, moi je peux pas. Je peux pas avec cette douleur, je peux pas méditer, avec cette personne qui ronfle, je peux pas méditer, avec ceci, cela. Là, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Donc d'une façon très grossière, parfois d'une façon très très subtile, il va y avoir une sensation, je peux pas. Tant que c'est comme ça, je ne peux pas. De la même manière, quand il y a un moment où, hop, comme on en parlait tout à l'heure, un moment, hop, subitement le corps est un peu plus léger. C'est pas ce petit truc, l'esprit se pose. Il y a quelque chose, il y a une sensation d'espace. Ah, ça c'est bon, ça. C'est ça que je cherche. Qu'est-ce que j'aimerais bien que ça vienne plus souvent? Saisi. Direct. Saisi. Parce que là, ça va se détériorer. J'aimerais bien que ça vienne plus souvent. En général, ce qui va se passer, c'est très, moi je le vois, hein. Ah, il faudrait que je médite plus. Ah, vraiment, qu'est-ce que je ferais bien? Il faudrait peut-être que je fasse un coin dans ma maison juste pour la méditation. Peut-être il faudrait que je bouge ce meuble. Allez, c'est parti. Mouvement, de nouveau, mouvement. C'était au moment même où le non-mouvement, et la sidération s'installe, le désir de le garder, mais en mouvement de nouveau. Alors, il nous dit, Sanson, très facile, il suffit de ne pas avoir de préférence. Hein? Et alors, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de aller vers ou repousser. Il y a un espace dans lequel les choses se produisent, comme un ami qui mène le Krishnamurti Center à Benares prenait l'exemple du Gange. Il disait, quand on regarde le Gange, on regarde le Gange et on regarde les choses. Il y a plein de choses qui flottent dans le Gange. Il y a des vous pouvez voir un dauphin dans le Gange, il y a des dauphins dans le Gange, ou un corps à moitié brûlé qui flotte, des vaches le ventre en l'air, on peut des plastiques, des pêcheurs au coucher, enfin on voit de tout. Et il dit, c'est comme si on disait, ah oui, ça oui, ah non non, pas ça. Ça oui, ça je veux bien. Ah non non, ça il faut que ça passe plus vite, ça. Hein? Et non, le Gange il a son courant et il amène ce qu'il amène, et nous on est là, et juste on reste, ça s'appelle l'égalité d'esprit, on reste égal d'esprit face à toute chose qui se présente devant notre vue. C'est à ça que nous poussons. Mais l'inverse est vrai. Et c'est ça la subtilité qu'on essaye d'acquérir, et cette souplesse, en fait. Maintenant, on peut dire tout le contraire, et ça sera juste aussi. Qu'il faut saisir, qu'il faut avoir des préférences. Je lisais un livre de Viktor Frankl, un Autrichien qui a été à Auschwitz, déporté en camp de concentration, ainsi que toute sa famille. Et il y restait 3 ans. Il était psychiatre, je pense. Et en fait, pendant tout son temps à Auschwitz, il observait les comportements humains. Il observait les comportements humains, il observait ce que c'était, ce qui se passait quand on a du pouvoir, à quelqu'un dans les baraquements. Il observait ce qui se passait quand plusieurs gardiens étaient là entre eux ou quand ils étaient tout seuls. Ouais, vraiment, il s'intéressait à tout ça. Et en fait, il menait une analyse et avec l'idée constante que quand il sortirait du camp, il donnerait des conférences sur ce thème, de ce qu'il avait pu apprendre en fait. Et il dit clairement en fait que c'est ce qui l'a sauvé. Et il dit que tous les gens dans le camp, ceux qui survivaient, c'est ceux qui avaient un projet. Et ceux qui n'avaient plus de projet ne trouvaient plus de sens et ils échangeaient leur repas contre une cigarette. Il disait quand on voyait quelqu'un qui échangeait son repas contre une cigarette, on savait qu'il avait abandonné. Et on savait qu'il avait abandonné parce qu'il n'y croyait plus, parce qu'il ne trouvait plus un sens. Et c'était vachement dur. Il était rentré avec toute sa famille. Il savait pas où était sa famille. Sa femme était enceinte. Il l'a jamais revue. Et d'ailleurs, quand il est retourné à Vienne, il a créé la troisième école de psychothérapie de Vienne, là, qui est la logothérapie, et qui est la thérapie du sens. Et c'est comment, pour lui, c'est comment imaginer. Parce que le désir, en fait, le désir, c'est imaginaire. Même une cigarette. Le désir d'une cigarette, c'est imaginer que cette cigarette va me faire un certain effet qui va me plaire. Donc le désir est toujours imaginaire. C'est toujours une anticipation imaginaire de ce que va être le futur. Et donc, pour lui, en fait, ce qui l'a sauvé, c'était d'avoir un but, c'était d'avoir une histoire dans laquelle se projeter et qui créait du sens. Et donc c'est ça en fait la logothérapie et je pense que ça doit être pour beaucoup de gens qui ne trouvent pas de chemin quelque chose d'hyper intéressant. Mais vous voyez si là on lui avait dit bah la pleine conscience dans le camp à Auschwitz, juste le moment, vivre le moment tel qu'il est, sans rien y ajouter, je pense pas que ça aurait été suffisant. Je pense que c'est pauvre en fait comme réponse. Il manque toute une dimension. Oui, la pleine conscience permettrait de une douleur est une douleur est une sensation physique, de déconstruire un petit peu pour ne pas laisser papancha, la prolifération de l'esprit, pour ne pas laisser les histoires noires et dépressives grandir. Mais est-ce que ça aurait vraiment été suffisant de se relayer aux cinq sens et de se connecter à la réalité du présent moment à travers les cinq sens pour pouvoir traverser une épreuve pareille? Je pense que c'est pas suffisant. Et on le voit dans le bouddhisme aussi, ça existe, le chemin du bodhisattva, pour ceux d'entre vous qui en ont. Le chemin du bodhisattva, c'est faire un vœu, vous savez, dans l'enseignement du Bouddha, le but est de sortir du cercle des réincarnations, c'est-à-dire de sortir du cercle de la souffrance. Et le chemin du Bodhisattva, il est arrivé des centaines d'années après. À un moment, ça a été une innovation dans le bouddhisme. Je ne sais pas qui a trouvé ça, mais quelqu'un a dit ben, moi, en fait, plutôt que de sortir du cercle des réincarnations, je fais le vœu de toujours revenir et de me réincarner tant qu'il y a quelqu'un qui souffre. C'est chaud. Parce que pour eux, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Et c'est revenir dans un monde de souffrance pour aider les autres plutôt que de se faire son petit chemin dehors et d'avoir trouvé la sortie. Et donc, c'est clairement la voie de la compassion. Mais ça, c'est du désir. C'est de l'imaginaire. C'est de la projection dans le temps. Il y a tout ça là. On est loin de la pleine conscience des cinq sens. On ajoute quelque chose d'imaginaire à ce magnifique apport qu'on avait déjà de la méditation, de rester dans le vide de sa propre présence ou d'évoluer dans le monde tel qu'il est, sans rien y rajouter et en percevant les choses telles qu'elles sont. Toute une dimension. Toute une dimension qui pourtant n'est pas tellement mise en avant en Occident, dans la spiritualité bouddhiste occidentale. Tout ce monde de l'imaginaire. Parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on saute comme ça sur cette moitié d'enseignement autour du désir, qui est lâcher prise, lâcher le désir, lâcher le désir, lâcher le désir, toujours lâcher le désir. Le désir construit la souffrance, le désir est la souffrance. On prend ça comme si c'était la totalité, parce que l'autre aspect du désir, si on dit oui, le désir est nécessaire, on dit oui à l'imaginaire aussi. On prend l'imaginaire comme une nécessité de l'humain. Et dans notre contexte, l'imaginaire a mauvaise presse. Depuis le XVIe siècle, XVIIe siècle, siècle des Lumières, l'imaginaire est considéré comme irréel et dangereux. La folle du logis, disait Malebranche. Hein, l'imaginaire peut créer, et c'est vrai, c'est un territoire immense. Et on a viré tout le territoire de notre expérience, le territoire de l'imaginaire. Il est réservé à quelques personnes créatives qui font des choses qui sont très belles, et puis voilà. En gros, sans se rendre compte que l'imaginaire fait partie du domaine de notre expérience, du domaine de notre construction, et que notre identité, à la manière dont on la connaît, est profondément imaginaire. Et que c'est avec ça qu'on fonctionne, c'est notre matériau pour évoluer dans ce monde. Et que le désir, dans ce sens-là, il est imaginaire et il est inévitable et nécessaire. On ne peut pas toujours lâcher prise et revenir au moment présent. On va mourir. On a besoin de se laisser, de laisser le désir, de distinguer quels sont les désirs qui sont nourrissants, mais ceux-là, on a besoin de les poursuivre, de s'y accrocher, de les nourrir, tous ceux qui ont du sens. Alors pendant le mois qui suit, en attendant la prochaine retraite, où on va continuer en fait cette exploration et où on va rester dans ces territoires du désir et on va affiner certaines choses qui viennent d'être abordées, et notamment comment nourrir les désirs, comment nourrir les désirs qui sont importants, les désirs qu'il faut absolument nourrir pour que notre vie prenne sens. On verra ça, donc ça c'est les intentions, et c'est l'intention en fait qui va nourrir le désir. Et donc on abordera, en fait on va aborder tout ce qui s'est dit dans ces deux discours, dans les deux retraites qui suivent, en prenant des fils et en allant plus loin à chaque fois. Et d'ici là, moi ce que je vous encouragerais vraiment, c'est... Comme je vous le disais, les méditations sont enregistrées, les discours sont enregistrés. S'il y a des choses, des endroits du discours qui vous ont parlé, n'hésitez pas à réécouter, réécouter encore, réfléchir, essayer de comprendre, essayer de discerner peu à peu. La compréhension est très très importante. Essayez de discerner peu à peu, de mettre ça en regard de ce que vous savez déjà, de vous-même, de votre philosophie, et puis de pratiquer des méditations. Et d'avoir une intention, on pourrait se dire que tous, pendant un mois, on va avoir une attention spécifique au mouvement du désir en nous et à comment on y répond. Hein? On pourrait prendre ça comme intention. On pourrait avoir une intention claire maintenant de se dire, bah oui, c'est un bon plan, ça. Pendant un mois, je vais essayer de voir les désirs qui émergent en moi et comment j'y réponds. Comment ça se passe tout ça? Et comment ça se passe si je dis non? On a entendu parler de contraction dans le corps, d'attention qui se focalise, qui se resserre, qui se diminue, qui se concentre. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que vous auriez la possibilité de le voir quelquefois dans le mois qui vient? Ah ouais, ah je l'ai vu là. Ah c'est ça qui se passe. Essayez de voir le mécanisme derrière. Alors si on s'engage comme ça et puis qu'on se retrouve après, il y a aussi des temps pour les retours, collectivement on avance. Et individuellement aussi dans la connaissance de soi et de ses fonctionnements. Parce que je pense que vraiment pour grandir, pour s'ouvrir, pour pouvoir plus s'aimer et aimer les autres, en fait c'est la connaissance de nous-mêmes c'est central, la connaissance de nous-mêmes. Et c'est bien ça qu'on fait, c'est de s'observer, de temps en temps déranger un peu l'ordre établi pour voir ce qui se passe. Hein, l'ordre établi c'est j'arrive pas à résister au désir. Ça, c'est l'ordre établi. Ah bah tiens, je vais quand même mettre un bon petit coup de pied là-dedans. Par exemple, quand il y a des désirs, si c'est des désirs répétitifs, qu'est-ce qui se passe si vous dites que d'ici le mois prochain, vous vous direz toujours, ah, ce désir-là, qu'on connaît très bien. Ah, t'es là. 10 minutes. Si dans 10 minutes, t'es toujours là, je reviens. Juste pour voir, on bouleverse l'ordre établi, on voit ce qui se passe. Enfin, mener des expériences. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.